bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Rebelote pour les députés britanniques, ils voteront à propos du Brexit dans 3 semaines environ, sur proposition de Theresa May. Elle souhaite trouver une issue avant l'été, vous l'entendrez. Nous nous pencherons aussi sur l'appel de Christchurch que doit lancer aujourd'hui Emmanuel Macron, ainsi que plusieurs dirigeants du monde pour combattre le contenu terroriste sur Internet. Et puis la question des reprises d'industrie en France, Ascoval, dans le Nord, se pose des questions sur son futur repreneur britannique quand des betteraviers normands veulent reprendre leur usine lâchée par les Allemands. Explication à suivre. Les députés britanniques vont donc devoir se prononcer une 4e fois sur le Brexit. Après avoir rejeté 3 fois déjà l'accord proposé par la première ministre Theresa May, ils se pencheront donc sur une version modifiée du texte dans les jours à venir, Antoine Gignot.
C'est le porte-parole de Downing Street qui l'annonce. Ce nouveau vote aura lieu le 3 juin. Si les députés valident le texte, le Royaume-Uni pourra donc, dit-il, quitter l'Union européenne avant le milieu du mois de juillet, avant les vacances parlementaires. Aucune information, en revanche, sur le contenu de ce texte. Officiellement, Theresa May continue d'essayer de nouer une alliance avec les travaillistes, mais la Première ministre est de moins en moins soutenue au sein de son propre camp. 14 grandes figures du Parti conservateur, anciens ministres ou membres du gouvernement viennent de signer une tribune dans le Times pour lui demander officiellement de mettre un point final aux discussions avec la gauche. Avec 73% d'opinions défavorables, la Première ministre est de toute façon au plus bas dans les sondages, à tel point que le festival de sculpture sur sable de Weston-super-Mare, dans l'ouest de l'Angleterre, lui dédie une œuvre géante, sa tête sous la guillotine du Brexit.
Effectivement, dans les sondages à 11 jours des européennes, Theresa May et son parti conservateur sont 5e dans les intentions de vote. Pour ce scrutin, la campagne a débuté en France avec plusieurs débats organisés. Celui de France 2 et France Inter la semaine prochaine fait encore polémique. Les chaînes coupent en effet les débats en 2. 6 candidats ayant le plus d'intentions de vote dans les sondages seront en première partie de soirée et 9 autres en seconde partie. Benoît Hamon de Génération, Nicolas Dupont-Aignan ou Yann Brossat, le communiste, s'insurge. Yann Brossat qui veut saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Un appel maintenant de la France et de la Nouvelle-Zélande aujourd'hui contre les contenus à caractère terroriste sur Internet. Le président Emmanuel Macron va mener ce mercredi une réunion avec la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Seront également présents les dirigeants de Jordanie, du Sénégal, du Royaume-Uni ou encore du Canada, ainsi que des représentants de Microsoft, Facebook et Google. L'idée est d'éviter que ne circulent des contenus terroristes sur la toile, comme ce fut le cas après les attaque contre les mosquées de Christchurch le 15 mars dernier en Nouvelle-Zélande. Pour Nicolas Harpagian, spécialiste en cybersécurité, cela passe par une collaboration étroite entre les États et les plateformes numériques.
Il faut des États de manière à établir la norme de droit, il faut des entreprises qui sont les acteurs effectifs du numérique et qui donc vont rendre concrets les suppressions de contenu. La seule chose, c'est que on l'a vu avec la vidéo de Christchurch, c'est-à-dire que l'assassin s'était filmé et diffusé en direct sur Facebook, et au même moment, des internautes multipliaient les diffusions, c'est-à-dire que ce sont bien des individus, des particuliers, qui faisaient la démarche de remettre en ligne alors même que Facebook le supprimait. Donc on voit bien que la coopération des États et des entreprises est nécessaire, mais que les usages des consommateurs vont être également déterminants, même si un grand pays comme l'Australie a mis en place un corpus juridique extrêmement contraignant pour les plateformes, avec des peines de prison pour les dirigeants des plateformes qui ne seraient pas assez réactifs dans la suppression des contenus et des sanctions qui se calculent en milliards de dollars australiens. Donc même des pays démocratiques ont mis en place des cadres juridiques très contraignants pour les plateformes.
Des propos recueillis par Christian Chesneau. La Syrie d'Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord pourra-t-elle vraiment être reprise par le britannique British Steel? Selon la presse outre-Manche, le sidérurgiste est menacé de faillite. Il demande même 75 millions de livres à l'État anglais pour faire face au Brexit. Le groupe explique que les difficultés au Royaume-Uni n'impacteront pas la reprise de la Syrie nordiste et qu'il respectera ses engagements. C'est aujourd'hui que la reprise doit être effective pour les 268 salariés du site. Au chapitre des reprises d'entreprises encore, une nouvelle tentative tentative de conciliation doit avoir lieu aujourd'hui à Strasbourg entre le groupe allemand Südzucker et les syndicalistes de deux raffineries de sucre en France, dans le Calvados et dans la Somme. 130 emplois sont sur la sellette. Les salariés voudraient transformer les sites en coopératives, en s'en occupant donc. Mais les propriétaires allemands refusent cette reprise sans explication pour le moment. On note par ailleurs que l'entreprise allemande est mal en point, David Philippot.
Le groupe Südzucker présentera demain son bilan trimestriel et les pronostics des analystes ne sont pas bons, avec un recul attendu du chiffre d'affaires de l'ordre de 7%. Depuis 2017 et l'ouverture du marché du sucre à la concurrence mondiale, l'action Südzucker est en dents de scie au rythme des annonces de fermeture d'usines. Pour satisfaire les marchés, le numéro 1 européen a annoncé la fermeture de 5 usines par an afin d'économiser 100 millions d'euros. Une raffinerie en Pologne va fermer cette année, plus 2 unités de production en Allemagne. Conséquence de cette ouverture des marchés, la fin des quotas sucriers a coïncidé avec une crise de surproduction. La Thaïlande, le Brésil et l'Inde surtout ont inondé le marché mondial de leurs excédents. Résultat, une forte dégringolade du prix de la tonne de sucre, y compris en Europe, puisque le prix n'y est plus garanti, de 500 euros la tonne en 2017 à 300 euros aujourd'hui. Lancée dans des discussions avec le ministère français de l'Agriculture, la multinationale n'explique pas publiquement pourquoi elle refuse les offres de reprise des salariés français.
Fin de l'attente pour les candidats aux études supérieures cette année. Inscrits sur la plateforme Parcoursup, ils auront le résultat de leur choix à partir d'aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation précise que pour les 898 000 candidats, 14 500 formations sont proposées, avec cette année davantage de places que l'an dernier. L'association de défense de consommateurs CLCV, Consommation Logement Cadre de Vie, va demander au Conseil d'État d'annuler la hausse prévue de l'électricité en France. Elle juge cette augmentation illégale. Le prix de l'électricité va en effet augmenter au 1er juin prochain, bondir même, plus 5,9% pour 25 millions de foyers, sur décision du Conseil supérieur de l'énergie, Grégoire Le Callot.
Cette fois, il n'y a vraiment plus aucun suspense. L'augmentation du tarif réglementé de l'électricité, gelé par le gouvernement en janvier pour tenter de calmer la crise des gilets jaunes, va s'appliquer au 1er juin, 5,9%, donc c'est-à-dire en moyenne 85 euros par an en plus par foyer. Les premières factures au nouveau tarif vont arriver dès juillet dans les boîtes aux lettres. Ensuite, eh bien, il y aura peut-être une seconde lame en quelque sorte, moins attendue. Début février, la commission de régulation de l'énergie a prévenu dans une délibération passée un peu inaperçue. Il faudra sans doute payer des pénalités de retard à cause des coûts provoqués par ce report, ce qu'elle appelle intégrer une composante additionnelle à ses prochaines propositions tarifaires. Le montant de cette nouvelle augmentation éventuelle est encore inconnu. La CRE pourrait proposer cette facture de rattrapage en août, à moins que les discussions au Parlement autour de la petite loi énergie ou qu'un nouveau mode de calcul du tarif réglementé ne permettent de l'éviter.
Il y a un mois, la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlait par son toit. Depuis, près d'un milliard d'euros ont été donnés ou promis pour la reconstruire. Face à cet élan de générosité, la Fondation du patrimoine veut en profiter et ne pas s'arrêter là. Car, dit-elle, ce drame a permis une nouvelle prise de conscience pour sauver les monuments fragiles, les monuments mal entretenus. La Fondation lance donc une nouvelle collecte baptisée « Plus jamais ça », destinée à d'autres bâtiments. Au micro de Catherine Dutu, la directrice générale de la Fondation du patrimoine, Célia Véro, s'explique.
À la Fondation du patrimoine, chaque année, on soutient entre 2000 et 3000 bâtiments. Et puis, avec la mission Berne, depuis 2017, avec Stéphane Berne, avec les directions régionales des affaires culturelles, nous avons inventorié, grâce à des signalements du grand public, les bâtiments en péril. Il y a des églises dans tous les villages de France et un certain nombre d'entre elles sont en très mauvais état, avec des charpentes qui sont infestées par la mérule ou par des insectes xylophages. À Crécy-Couvé, qui était le village de la Pompadour, tout simplement, le clocher, il fait un peu comme la tour de Pise, il est en biais, donc on craint qu'il s'effondre à brève échéance. Et puis, voilà, on en a des dizaines d'autres, d'autres types de bâtiments, des bâtiments civils, des théâtres municipaux, des châteaux anciens, mais aussi des ouvrages d'art, comme des ponts anciens, où finalement, on est obligé de fermer le bâtiment à la visite du public parce que ça présente des dangers et qu'il y a un risque qu'à relativement brève échéance, le bâtiment s'effondre. Donc ce sont des sites qui ne sont pas en train de brûler, comme ça s'est passé à Notre-Dame, mais qui sont dans une sorte de mort lente et c'est ce qu'on veut prévenir.
Évidemment, plus les fonds seront importants, plus le nombre de bâtiments restaurés le sera aussi. Notez enfin que le 72e Festival de Cannes est lancé avec hier soir la traditionnelle montée des marches. Les acteurs Javier Bardem et Charlotte Gainsbourg ont ensuite proclamé l'ouverture des festivités, ce face à un parterre de stars de cinéma et devant les membres du jury présidé par le réalisateur mexicain González Iñárritu. La compétition officielle a commencé dans la foulée avec le film projeté hier soir, The Death Don't Die de Jim Jarmusch. Cette année, 21 longs métrages sont en lice pour la Palme d'Or. Le temps ce mercredi sera encore ensoleillé, excepté sur le sud-est de la France où les nuages et quelques pluies seront toujours présentes. Le tout dans une ambiance assez froide avec 11 degrés ce matin à Besançon, 13 à Lyon et Marseille, 15 degrés à Paris et Lille, 16 à Rennes et Bordeaux.